Lighthouse Rock.
Lighthouse Rock. Surif.
Salut à tous et à toutes. Il est 21h01 et en ce jour d'octobre, nous sommes le 6 octobre et nous sommes dimanche, 21h01, et nous présentons ce soir une émission spéciale sur un groupe mythique qui est là avec nous depuis 1969, particulièrement sous le nom de King Crimson, et qui a annoncé récemment par son porte-parole Robert Fripp, un guitariste, leader et fondateur de King Crimson. Et ce soir, je suis avec un invité pour justement retracer un petit peu rapidement leur carrière avec leurs plus grands morceaux, leurs morceaux les plus connus, les plus fameux, les meilleurs morceaux de King Crimson. Et donc, est-ce que vous êtes avec moi, invité?
Oui.
Bien sûr. Alors, invité, ça va pas être très compliqué parce qu'on a très peu de temps, exactement 7 minutes et 32 secondes de micro dans toute l'émission, mis à part les chansons, pour tenir jusqu'à 22h. Donc, on ne traîne pas.
Ça va être très compliqué.
Exactement. Donc, invité, je pense que beaucoup de gens vous ont déjà reconnu. En fait, c'était pour les mettre en haleine pour ce soir, mais bon, je pense que tu peux dire qui tu es rapidement, c'est Frizou.
Frizou.
Voilà,
c'est mon nouveau nom. C'est
voilà,
ça.
Exactement.
Et Rendil, bien sûr, ben oui, animateur de Katamarif, intervenant dans les débats et autres pour vous servir ce soir et participer à cette petite fête, hein, on peut le dire.
Et bien sûr,
petite célébration.
Une grande célébration, même effectivement, oui, pour ce groupe de légende. Et donc, eh bien oui, je suis très heureux de t'avoir avec moi pour cette émission, puisque.
C'est pareil.
Tu es un grand fan de King Crimson, tout comme moi, voilà.
Et ça fait un moment, oui, que je connais ce groupe-là. D'ailleurs, voilà. dans plein de mes précédentes émissions, j'en ai fait écouter peut-être pas des heures et des heures, mais pas loin, peut-être.
D'accord, bah voilà, bah tu vois, on a la même passion pour ce groupe qui est vraiment un groupe énorme. Et on va essayer justement de vous en convaincre pour cette émission. C'est pas de la publicité, c'est vraiment une histoire. On vous présente le groupe. Et vous allez voir que c'est un groupe qui a du potentiel vraiment dans toute cette période qui s'étend, hein, de 69 à 2003. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Et donc, je ne sais pas si tu te rappelles, R&D, par quoi on voulait commencer comme album et comme piste. Je pense que tu te rappelles quand même.
Oui.
D'accord. Eh bien, je te laisse introduire du coup le premier morceau.
Ah, il manque juste l'album en fait, parce que je me souviens bien du nom de la piste.
Ah bah c'est...
Comme j'ai préparé, tu vois, tout mon PC pour cette magnifique émission, j'ai fermé ce genre de détails.
D'accord, et bien en 1969, le groupe arrive dans l'industrie de la musique avec un album vraiment un album qui résonne dans le monde du rock progressif, hein, c'est l'espèce de Big Bang du rock progressif. Et c'est en 69 que l'album In the Court of the Crimson King paraît dans le label Island Records. Et donc, eh bien...
Mais c'était pas par ça que tu voulais commencer?
Eh bien, je voulais commencer par cet album, mais par une piste.
Ah.
Et effectivement, hein, tu as l'œil et tu as l'oreille, bien entendu. On va commencer par cet album réellement dans la continuité des albums de King Crimson de 69 à 2003. Mais nous allons commencer en piste d'ouverture par une piste très très bien pour faire une introduction d'émission, figurez-vous. Une piste vraiment unique de King Crimson, une piste qu'on affectionne vraiment pas mal, hein, avec plusieurs de mes amis et que j'ai fait écouter à Rendil. Bien sûr, c'est la piste de l'album Free of a Perfect Pair, donc c'est cet album là donc je ne te souviens plus le nom, et sorti paru en 1984. Cet album contient une piste qui est vraiment exceptionnelle, qui est la piste Dist et qui s'appelle The King Crimson Barbershop. C'est une piste que nous allons tout de suite écouter pour démarrer officiellement cette émission pour la 8ème reformation officielle du groupe King Crimson, le groupe de rock progressif mythique, bien sûr. Nous commençons tout de suite donc cette émission spéciale King Crimson dans Lighthouse Rock pour cette 4ème édition de Lighthouse Rock. Il est 21h08, nous sommes le 6 octobre 2013 et voici la piste The King Crimson Barbershop. Bonne écoute à tous.
I'm Tony.
I'm Billy.
I'm Bobby.
We're here to sing a
it, we're the best in all the land of the land. We play bass and the drums and guitar for you.
And if you really want, we'll throw the
stick into a, we're the King Crimson Band. And you know we think that's grand.
So settle back to have some fun and tap your foot in 21. 'Cause we're the King Crimson Band, you better believe it. The King Crimson Band, we don't do one, 'cause the King Crimson Band, no photos, please.
Riff.
Voilà donc une piste qui vient d'être diffusée de King Crimson Barbershop, donc publiée dans cet album Free of a Perfect Pair en 1984. Vraiment une piste exceptionnelle. Alors regardez, avec tous ces mélanges de chœurs, c'est avec Bill Bruford, avec Robert Fripp, tout ça, ils disent leur nom au début de la piste et après ils nous font cette petite. Et oui, c'est vraiment impressionnant, c'est cette chorale un petit peu, mais juste par King Crimson, c'est assez impressionnant. Voilà, tous les membres du groupe mettent la main à la pâte pour cette piste, et ça tombe très bien, puisque tous les groupes sont impliqués dans ce début d'émission, puisqu'on va parler du groupe en entier, et pas juste de Robert Fripp. Et oui, on pense à tout. Et donc, tu es toujours avec moi, Erendil.
Toujours présent, bien sûr.
Bien sûr, alors je parlais juste avant de la piste qui ouvre leur carrière, qui est la piste la plus connue du groupe, hein, on va pas du tout le cacher, c'est celle que on dit King Crimson, c'est celle-là que les gens retiennent. C'est comme ça, c'est une piste très engagée politiquement, puisque dans les paroles on a une contestation de l'utilisation du napalm pendant la guerre du Vietnam. Tout ça à l'époque dans les années 60, on replace dans le contexte, hein, 1969, toute une décennie marquée par la guerre du Vietnam, et il y a ces contestations qui sont faites par les artistes également, très important, puisque les Américains ils sont pas touchés directement par la guerre, c'est leurs soldats qui partent là-bas, c'est pas sur leur territoire, et donc les artistes, eux, sensibilisent la population au travers de leurs œuvres. King Crimson le fait également, et c'est là où il rentre dans le monde de la musique et du rock progressif, par cette piste 21st Century Schizoid Man, dans cet album mythique, vraiment celui, comme ça on dit King Crimson, c'est celui-là que
fondateur.
Les gens... Exactement, c'est ce goût. C'est cet album dont les gens. Ils ont cette image d'album dans la tête. La pochette, bien sûr, mythique. Je sais pas si tu peux nous mettre la pochette sur le chat, Erendil. Cette pochette.
Oui, j'ai ça sous la main.
L'homme schizoïde entouré par. Il y a un mélange du roi cramoisi et de l'homme schizoïde sur cette pochette magnifique. Et bien entendu, maintenant. Nous allons écouter la piste 21st Century Schizoid Man, qui ouvre cet album mythique qui a lancé King Crimson sur le devant de la scène. C'est tout de suite sur Riff, 21st Century Schizoid Man, bonne écoute à vous. c'était donc King Crimson avec le titre justement, eh bien, 21st Century Schizoid Man dans l'album In the Court of the Crimson King. Et nous sommes actuellement avec Erendil.
C'est exactement ça.
Eh bien,
d'ailleurs, le mot schizoïde, c'est marrant, mais il se traduit en français par schizoïde, tout simplement.
D'accord, oui, voilà, avec un tréma, il me semble. Et
ouais, sur le i.
Voilà, et un
enfin,
e
sur
à la
le deuxième.
Fin. Voilà.
C'est ça. Et c'est un trouble, en fait, de gens qui restent dans leur coin. C'est un peu bizarre.
Je te laisse, si tu avais des informations sur cette piste.
Non, mais tu disais que ce titre était très très connu, donc je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qu'auront noté qu'il a été repris donc par pas mal de gens célèbres.
Oui.
Et notamment Ozzy Osbourne, pour citer que lui, dont on parlait il y a quelques jours sur Riff.
D'accord.
Et en France, il y a eu Noir Désir aussi, visiblement.
Carrément. Ah, j'étais pas au courant de ça par contre.
Ouais, sur l'album Noir Désir en public.
D'accord. Et il y avait aussi Greg Lake, moins étonnant, qui l'a repris à son compte en live, étant donné qu'il a fait partie du groupe et qu'il chantait justement sur cette piste. C'est pas étonnant. Mais voilà, c'est quand même pas King Crimson et il a joué en solo sur scène.
Et preuve du succès, elle a été dans Guitar Hero 5, pour ceux qui l'ont fait.
Et voilà.
Sorti à l'époque. Et c'était, je crois, une des chansons les plus dures, non?
Oui, c'est ça, oui, c'est. C'est...
Notamment pour le passage au début, j'imagine qu'il doit être un petit peu.
Voilà, c'est un riff très musclé qui nous projette dans l'univers de King Crimson, justement avec cette succession là de bruitage, vraiment au tout début de la piste, il y a 30 secondes de bruitage, puis un riff très musclé et c'est vraiment très très tendu et on sent vraiment, à toutes les échelles, on sent cette protestation quoi. C'est vraiment très très intéressant.
C'est vrai que quand on ferme les yeux, on s'imagine des choses absolument horribles.
Voilà, on entend, on sent les bombes tomber presque. Hein. C'est presque ça. Et donc, en tout cas, maintenant, on va passer donc à un nouvel album, un album qui est sorti l'année d'après, toujours sur le même label, Island Records, sorti en 1970, l'album In the Wake of Poseidon. Commence à établir une sorte de structure comme ça en rappel dans l'album. Donc nous avons une chanson qui s'appelle Peace qui voilà, je la mets en fond, une piste qui justement est reprise à trois fois dans l'album. Donc au début nous avons Peace a Beginning, Peace a Theme, donc le thème de l'album c'est Peace a Theme, voilà. Nous avons Peace an End, donc elles sont placées vraiment à égale distance, on peut dire, hein, puisque sur le vinyle on peut raisonner en termes de distance. Franchement, du coup, on a ces rappels dans la piste The Devil's Triangle. Nous entendons une sorte de sample comme ça qui fait un rappel de l'album d'avant. Donc, il commence à y avoir des rappels dans la structure des albums de King Crimson, qui fait que c'est un constant échange entre les pistes en fait qu'il y a. Et donc on va écouter tout de suite la piste éponyme de l'album In the Wake of Poseidon, justement, qui s'appelle du coup, In the Wake of Poseidon.
The Wake of Poseidon.
Bien sûr. Et donc, cette piste est bien remarquable. Elle dure 7 minutes 56. C'est la piste la plus longue de la soirée. Et elle est vraiment très impressionnante avec l'utilisation du mélotron, instrument vraiment emblématique du rock progressif. On avait expliqué hier soir ce que c'était qu'un mélotron et puis on pourra peut-être le rappeler très rapidement. C'est une sorte de est-ce que tu veux te charger de cette tâche?
On peut imaginer ça comme un sampleur avant l'heure en fait, un sampleur avec des bandes magnétiques qui étaient utilisées donc pour on peut dire comme premier instrument de synthèse vu qu'on enregistrait avec des vrais instruments, voilà.
Oui, voilà.
Pour les revendre après, on va dire en série, comme on.
Voilà. On revendait des presets et puis après on les installait sur le mélotron et à chaque fois qu'on appuyait sur une touche, ça lisait une bande associée et suivant une logique d'octave justement sur le clavier avec les touches blanches et les touches noires, voilà, et on retrouvait donc une cohérence avec un jeu piano et c'était en gros l'ancêtre du synthétiseur, voilà, si vous voulez comprendre très simplement. Et donc on va entendre vraiment l'utilisation du mélotron dès la première seconde dans cet album avec cette piste surtout In the Wake of Poseidon, voilà, c'est tout de suite maintenant et vous allez voir l'évolution un petit peu de la carrière de King Crimson tout au long de ces pistes que nous avons sélectionnées pour vous ce soir. Tout de suite, c'est In the Wake of Poseidon de King Crimson sur Riff.
Lost in
Voilà, c'était donc cette piste de King Crimson, là, qu'on vient d'écouter. Une piste qui s'appelle In the Wake of Poseidon. Et donc, cette piste, figurez-vous, elle peut être mise en relation avec l'album précédent. Puisque je vous disais que King Crimson, c'était les spécialistes des allers-retours dans leurs œuvres. Et donc, on peut rattacher cette piste à Epitaph dans l'album The Court of Crimson King. Voilà, donc je parle trop vite, voilà, parce que c'est le stress, il faut aller très vite. Voilà. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Parce que je sais pas si tu te rends compte que Epitaph, elle commence, je vous fais écouter juste comme ça rapidement, elle commence comme ça, Epitaph.
Voilà. On va les mettre bout à bout.
Voilà, on va mettre ça à la suite, vous allez vous rendre compte tout simplement. Voilà, ça c'est Epitaph dans le premier album In the Course of Crimson King. Et donc, on continue cette analyse en mettant en relation les deux. On entend cette introduction comme ça là, qui dure quelques secondes, une trentaine de secondes, on va dire, j'imagine. Voilà, on entend ça comme ça, et puis après ça retombe. Vous allez bien voir. Voilà, ça, au bout de 30 secondes, c'est ce que je disais. Voilà, ça tombe comme ça. Voilà, vous avez vu à peu près. Et maintenant, je prends In the Wake of Poseidon que nous venons d'écouter. Ça fait la même chose. Voilà. Et là on pousse un peu. Voilà, ça répète les motifs. Et là, au bout de 30 secondes, c'est la même chose, écoutez. Ça se ressemble beaucoup quand même. Ça se ressemble beaucoup, c'est cette histoire justement de rappel. Il y a vraiment des liens entre les albums et on va arrêter là sur ce genre d'analyse puisque maintenant vous l'avez bien compris, c'est vraiment des choses très très bien pensées, très construites et c'est vraiment ça qui est très impressionnant dans le rock progressif justement.
J'aimerais juste remarquer aussi quelque chose, c'est que cet album aborde un thème qui est bien voilà posé, donc qui fait rappel qui fait penser à la mythologie.
Oui.
On est aussi dans quelque chose très emblématique du rock progressif, à savoir les thématiques mythologiques.
Exactement.
Et fantastique aussi par la suite. Et j'ai aussi l'image de la pochette, bien sûr, de la cover de In the Wake of Poseidon. Et c'est marrant. On voit dessus plusieurs mythologies qui se regroupent. On sent une intention, en tout cas, d'amener un univers qui est encore une fois original dans le contexte de l'époque, je veux dire.
Oui, bah écoute, de toute façon, en plus, je ne sais pas si tu sais, mais sur la pochette du vinyle, en fait, justement, puisque tu parles de la pochette, il n'y a aucune indication que c'est King Crimson. Tu regardes la pochette, tu vois juste une très belle pochette, toute peinte, etc. Et il n'y a pas marqué King Crimson, fallait vraiment savoir. Et donc, tu ouvres, et là, tu vois les noms.
Ouvrir,
des...
ouais.
Et voilà, tu vois les noms des pistes. Et en ouvrant la pochette, tu vois que les pistes comportent des sous-titres. Quelque chose que l'on a perdu en passant au numérique. Mais si tu regardes sur le vinyle, eh bien j'ai la chance d'avoir le vinyle chez moi, eh bien tu regardes que par exemple In the Wake of Poseidon comprend une sous-partie qui s'appelle Libra's Theme. Donc c'est le thème de Libra. Donc on parle encore de la mythologie, comme tu dis. Alors je ne sais pas du tout en quoi ça consiste, mais on a cette histoire comme ça de mythologie. On a, tu vois, il y a marqué Garden of Worm, donc. C'est le jardin du ver de terre, enfin moi je traduis comme ça en tout cas. Il y a plein de choses comme ça. En plus, dans cet album, on a une piste qui s'appelle The Devil's Triangle, qui est inspirée des planètes en fait. C'est Gustav Holst qui l'a composé et c'est une sorte de suite symphonique en fait, The Devil's Triangle. Et Gustav Holst, en fait, c'était un compositeur anglais. Du coup, bah vu que King Crimson est anglais, et ben ils se sont inspirés de ça. Et pour composer, c'est leur première piste instrumentale en fait. Leur longue piste instrumentale, c'est sur la phase 2, l'avant-dernière piste, juste avant Peace on End, la fermeture de l'album. Donc, c'est là que la machine de King Crimson commence à se mettre en place. Et juste à la fin de cette tournée là, eh bien, les musiciens habitués du groupe, c'est-à-dire Greg Lake, Michael Gilles ou Michael Gilles, c'est comme vous voulez, il y a plein de prononciations.
Parce que Michel, ça fait un peu français quand même.
Oui, tu prononces, c'est pour bien comprendre. C'est pas la, enfin, il y a plusieurs façons d'écrire. Hein, donc c'est la façon Michael quoi, mais Michael Gilles, Greg Lake, et nous avons Ian McDonald qui quitte le groupe après la tournée. Alors du coup, on se retrouve avec une formation trio. Et en trio, juste, c'est pour la période de 1974, avec l'album Red. Mais entre les deux, on a quelque chose d'autre qui se passe. Je sais pas si tu te rappelles ce qu'il y a avant l'album Red. Il y a quand même autre chose. On passe pas de In the Wake à Red. Il y a,
ah bah non, il y a plusieurs albums.
Il y a Lizard en 1970, un album vraiment tourné dans le symphonique, un petit peu dans ce style-là. Donc on peut se dire une prolongation ou pas de The Devil's Triangle. Peut-être, mais ça pour l'instant, on en parlera, on va pas s'étaler là-dessus. Ensuite, donc Lizard, c'est une sorte d'album un petit peu médiéval, un petit peu sur cette touche-là. J'avais prévu de vous passer la piste Indoor Games, mais je pense qu'on n'aura pas le temps en fait. Mais c'est pas une chanson très très connue, mais l'album Lizard a une petite touche médiévale. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, rien qu'avec la pochette,
ouais,
on trouve cette influence.
Et donc, comme Lizard, ça fait aussi penser au fantastique avec les hommes lézards qu'on met des fois un petit peu dans les univers.
Voilà. On pense à l'univers de Elder Scrolls un petit peu.
Ah, moi voilà. Je pensais à Conan le Barbare pour citer quelque chose d'un petit peu plus ancien.
Ouais, d'accord, oui.
Mais on est toujours dans une optique un petit peu de dragon, voilà. De fantasy, donc de médiéval fantasy, voilà, c'est le mot que je cherchais.
Voilà, bah écoute, merci pour cette précision. Et comme je le disais, une prolongation un petit peu de ces pistes instrumentales à la suite de Devil's Triangle, nous avons en 71 l'album Islands. Et bien là, c'est définitivement ce qu'on pourrait qualifier d'album un petit peu instrumental, tout ça, puisqu'on écoute un petit extrait de Islands, la dernière piste. Vous allez vous rendre compte que voilà, on a une piste assez symphonique, tout ça. C'est des pistes très très posées. Regardez, écoutez la fin de l'album qui est très spéciale. C'est vraiment quelque chose de très spécial. On retrouve la touche de répétition de King Crimson, des allers-retours dans les albums. Écoutez, c'est la fin de l'album, ça. Voilà. On entend des gens qui parlent, qui sont dans une salle de répétition. Donc ils sont en train de rentrer dans la pièce, de s'installer derrière les pupitres, etc. C'est tout à fait ce qu'on imaginerait comme un début de concert, en fait. Ils sont en train de... Voilà, ils donnent la bonne note et puis ils vont lancer l'accordage, tout simplement. Voilà, c'est maintenant. On a le début et c'est la dernière piste de l'album, c'est la dernière minute de cet album Islands. On assiste donc à l'accordage, exactement comme on pourrait le faire au début d'une répétition ou d'un concert, voilà, avec un orchestre complet. Donc on entend qu'ils s'accordent. Et donc, c'est justement, ce n'est pas un hasard s'ils ont choisi de faire ça, puisque, écoutez bien, là, ils... On s'accorde, tout ça, c'est bien. C'est bien enregistré, ils ont vraiment gardé cette séance de répète. Et écoutez ça, ça s'arrête. Il y a un petit bruitage comme si c'était la fin de la bande, tout ça. Et on se dit, bah tiens, on attend quelque chose. Il est censé avoir quelque chose après. Mais non, c'est bien la dernière piste. Et donc, je ne sais pas, ça c'est un peu compliqué puisque t'es en direct avec moi et c'est un petit peu en décalé. Voilà, donc là, ils disent, c'est bon, on est accordé, tout ça, on va pouvoir commencer. On entend ensuite... Voilà. Il tape la mesure. 1, 2, 3, 2, 2, 3. Voilà, donc on entend ça. Et après, ça c'est la première piste que je vous ai mise exprès. Et il commence à jouer avec la même formation d'instruments. Donc on se dit, c'est une sorte de... retour comme ça. Il faut mettre l'album en répétition, il faut écouter l'album en boucle, puisque comme tu le remarques Irendil, on entend l'accordage, on entend qu'il lance tout ça, la piste, et après si tu mets la première piste, bah ça commence directement. Donc on se dit, tu vois, il y a toujours cette histoire de renouveau dans les albums
de cycle, ouais.
Voilà, c'est ça, c'est une construction cyclique.
On peut faire le rapprochement, juste petite parenthèse,
vas-y,
mais
vas-y, bien sûr.
Ça marche très bien sur The Wall aussi de Pink Floyd. Voilà.
Tout à fait.
Pour ceux qui connaissent l'album, bien sûr.
Très bon exemple avec le début de In the Flesh, avec la mélodie, bien sûr. Je n'ai pas mon harmonica et je ne veux pas vous massacrer les oreilles. et la fin avec Outside the Wall, et nous avons cette mélodie qu'on retrouve au début et à la fin. Ça fait exactement la même sensation et peut-être une influence de King Crimson, peut-être, je ne sais pas. Et puis voilà, ça reprend cette idée, en tout cas ce concept, voilà, de cycle, comme tu le disais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec les Prog Awards? Je ne sais pas si tu connais, je t'en ai parlé tout à l'heure, non, apparemment tu ne connaissais pas.
Non, c'est des trophées pour les groupes de rock progressif.
Et bien voilà, en fait, c'est une sorte de récompense, voilà, pour les groupes de rock progressif. Et dans les nominés... des albums voilà, de rock progressif, nous avions King Crimson, justement, avec Larkstone Guinnesspeak, dans, je sais pas, la catégorie grand design, ça s'appelait comme ça. Et donc, nous avions Larkstone Guinnesspeak. Alors, est-ce qu'il parle de la pochette, du coup? J'ai pas toujours. C'est les nominés pour les catégories, tu sais, et c'est la catégorie grand design. Et ils ont gagné ce prix, en fait, King Crimson, Larkstone Guinnesspeak. Et donc, on va écouter la piste, la partie 2 éponyme, donc Larkstone Guinnesspeak. Et elle est vraiment, elle est connue. Elle a été jouée en live à Fréjus, un des lives les plus connus King Crimson, dans le sud de la France en plus. Et donc, on s'écoute tout de suite cette piste, Larkstone Guinnesspeak. C'est la partie 2 et c'est le King Crimson sur Riff. We'll be right back. Et voilà, c'était donc King Crimson avec Lars Tongs in Aspic. C'était la partie 2, justement, dans cet album du même nom, hein, de toute façon. Pas compliqué. C'était un album qui est assez reconnaissable. Je comprends pourquoi il a gagné cet award, justement, apparemment, de ce que je comprends bien, de meilleure pochette, hein, si j'ai bien compris. R&D, je pense que tu es d'accord avec moi.
Bah,
Ce qui semble logique.
Parce que... Oui, même si la pochette, honnêtement, il y a eu d'autres pochettes.
Bien sûr.
Bien aussi, c'est une... celle-là.
Elle a ses petites particularités, en fait, la pochette. On va pas pouvoir s'arrêter dessus, mais tu vois, elle est très reconnaissable. Je veux dire, c'est quelque chose.
Par exemple... Elle a une identité, oui.
Voilà.
Ça, c'est clair.
Ah bah, c'est exactement ce que je recherchais comme terme et tu me l'as donné, merci. Une identité unique, cette pochette. Et je ne sais pas pourquoi, ils ont toutes leurs raisons pour avoir élu cette pochette. Hein. Dans les Prog Awards, il y avait beaucoup de compétitions. Hein. Avec eux, il y avait Jet Rottle, il y avait Peter Gabriel, il y avait comme ça quand même, à côté.
Ah oui, non, pas facile, ouais.
Artiste de l'année, il y avait Steven Wilson, Marillion, des gens comme ça. Rush, donc c'était quand même c'était serré, tout ça, les Prog Awards, là. Donc... Et Steven Wilson qui a d'ailleurs gagné un prix pour un meilleur album de l'année avec The Raven That Refused to Sing and Other Stories. Voilà. Donc, en tout cas, je tiens juste à saluer quand même les auditeurs qui sont toujours là dans l'émission parce que on n'est pas une émission tout seul, bien sûr.
Sûr.
Donc, merci à vous d'être là pour cette spéciale King Crimson. Il y a des gens sur le chat, hein, très rapidement. Voilà, Pape Chazrael, Erendil, c'est toi qui est avec nous. Nous avons Tarus, Bilou95, Greg Ch'ti, Mib, Morg, Naps, qui est là bien sûr, Pouy, Sonatine, Super Pongouin, Trotsky, Téjacob, Diosios, Vif qui vient de partir et Double Z qui vient de partir. Bonne nuit à toi,
qui nous écoute encore.
Et nous avons d'autres gens qui nous écoutent comme Valentin, Julien ou encore Mathéo, voilà mon professeur de batterie qui m'a tant appris, voilà bien sûr, et qui est toujours avec moi cette année. Donc bien sûr, ça fait beaucoup de choses ce soir.
Et on espère que la programmation lui plaît, bien sûr.
Voilà, on espère que ça plaît à tout le monde, voilà. Et donc, on se dépêche, parce que on a quand même une émission avec Azrael juste après, hein, qui est Beyond, le rendez-vous post-rock. Donc, on se dépêche, mais j'ai peur qu'on dépasse un petit peu, parce qu'il reste plus que 10 minutes, donc faut aller très vite. Donc,
Azrael nous pardonne.
J'ai prévenu Azrael, t'inquiète pas. Nous avons donc en 1974, nous retrouvons en 1974, c'est à peu près le milieu de notre sélection et le milieu de la période de la carrière de King Crimson, on va dire, même si pas tout à fait, c'est pas grave. En 74, nous avons l'album Red. Il se retrouve vraiment en trio avec Bill Bruford, John Wetton et Robert Fripp, guitariste, bassiste, batteur. Et nous avons des musiciens additionnels qui jouent par exemple violon, mélotron, des choses comme ça. Hein. Et nous avons la piste Starless que nous avons pensé en début d'émission qui est vraiment énorme, 12 minutes de trance. En crescendo, on va dire, enfin qui croit vraiment pendant tout le morceau. Et sinon, nous avons la piste que nous avons sélectionnée, la deuxième piste de l'album qui s'appelle Fallen Angel. Et donc, vous allez vraiment entendre cette légèreté de son du trio, voilà, dans l'évolution du son King Crimson. Et c'est tout de suite sur Riff. Rendil, je sais pas si tu as quelque chose à ajouter, mais
à part, je sais pas, apprécier.
Voilà.
Installez-vous bien. Détendez-vous.
C'est vraiment une évolution du son, une il y a un petit ajout. Enfin, vous allez bien voir ça. Le son qui évolue là. On part de 70 à 74 quand même. Allez, de 73 ou là je.
Oui.
Je fais des. Ok. De 73 à 74, donc.
Novembre 74, je crois bien.
On fait un bond d'un an et en un an il s'est passé beaucoup de choses pour King Crimson. Vous allez bien le voir. Non, la piste Fallen Angel de King Crimson. C'est tout sur Riff. Bonne écoute.
Skyline crying, fallen angel dying, risk of dime. Lifetime spent on the streets of the city make us the people we are. Switchblade stings in 1/10 of a moment. Better get back to the
C'est donc la piste Fallen Angel tirée de l'album Red, sorti en 1974, bien entendu, c'était sur Riff. Oula, j'ai pu deux jingles, génial. Ok. Super. Ok, t'es avec nous, Arendil ?
Toujours là.
Je balance le jingle.
Lighthouse Rock. Lighthouse Rock. Surif.
Voilà, petit souci technique, mais ça a été réglé rapidement. Alors, tu es toujours avec nous. Il est 21h57 et merci à tous les auditeurs qui sont toujours avec nous. Toujours. Hein.
Merci à vous.
Beaucoup de gens, voilà. Et Julien qui nous quitte actuellement, salut à toi, merci d'avoir écouté. Et voilà, tout, on a nos horaires, hein, et 21h57, c'est l'horaire habituel, mais bon, on est un petit peu en retard. Alors, speed. Arendil, après ce trio, King Crimson se reprend, même si ça a jamais chuté, hein, c'était un album d'extrême qualité, hein, souvent considéré dans le top 3, voire top 2. C'est le cas de mon frère, c'est le top 3 des albums. Ton cas, c'est peut-être soit top 3, soit top 2, etc.
On exactement, quoi. Ouais.
Et voilà, moi aussi, c'est pareil. Enfin, franchement, c'est un album très, très complet.
On trouve Starless dessus pour ceux qui étaient là entre, un petit peu avant 21h.
Voilà, entre 45 et, entre 48 exactement et 21h pile. Voilà, on a passé Starless. Donc, c'est vraiment un de leurs meilleurs albums. Maintenant, on fait un saut dans le temps. 74, Starless and Bible Black. Ok, un album stylé. Il fait référence, bien sûr, à la piste Starless de Red. C'est toujours cette histoire de rappel, voilà, de rappel. Voilà. Et donc, en 81, entre temps, on a eu la période solo de Robert Fripp. Hein. Il y a eu plusieurs étapes dans les albums solo de Robert Fripp. Il y en a dans les années 70, il y en a dans les années 80, des petits boulots solo comme ça. Et en 81, reformation, enfin, en tout cas, ils reprennent le studio et ils nous sortent la petite perle Discipline. Alors franchement, là, on fait vraiment un bond un saut dans le temps, un bond, hein, vraiment. Et là, il y a vraiment des utilisations de technologie à la pointe de la technologie, mais bon, c'est pas grave. Ok. Et nous avons des pistes avec des loopers, par exemple, des choses dans ce genre-là. Par exemple, frame by frame. Écoutez cette introduction. Voilà, elle est en fond. On entend des utilisations techniques beaucoup plus récentes, l'utilisation de batteries électroniques, voilà, de sons plus synthétiques, ça s'entend vraiment. Et maintenant on va écouter une piste qui, elle, n'a pas vieilli, finalement une des seules où on n'entend pas ces touches un petit peu modernes, mais enfin vous allez bien voir, en tout cas le son de King Crimson dans lui-même a évolué. C'est la piste Mate Kudasai. C'est la troisième piste de l'album Discipline, sorti en 1981. J'espère que vous allez apprécier cette piste, c'est de King Crimson tout de suite.
Sad America.
C'était donc la piste Mat et Kudasai très reposante de King Crimson en direct sur If.
Lighthouse Rock. Lighthouse Rock sur If.
Un petit break justement dans King Crimson, Erendil, puisque l'année d'après, en 1982, paraît un album, Beat, et oui, sorti donc avec... toujours en composition, Robert Fripp, Adrian Belew, Tony Levin et Bill Bruford. Pourquoi je vous dis ce line-up comme ça ? Parce que Tony Levin, bassiste de toute cette période des années 80, sera dans le nouveau line-up de King Crimson, là, de la 8e reformation. Et nous avons Robert Fripp, bien entendu. Bill Bruford était dans la reformation de 2009, mais pas dans celle-ci. C'est vraiment un excellent batteur et... je ne sais pas si ce serait mon batteur préféré de King Crimson, mais parce que dans les batteurs de King Crimson, il y en a eu plusieurs. Même si l'instrument batterie avec la guitare, donc représenté par Robert Fripp, a été, on va dire, le deuxième instrument à rester le plus stable en termes de musicien en fait dans le groupe. Parce qu'il y a eu un premier batteur, il y a eu Bill Bruford, et puis voilà, puis il y a la période récente où ça change encore avec Gavin Harrison de Porcupine Tree. Donc nous avons Matteo qui nous dit, Erendil, que à noter que le trompettiste bugliste Medrick Collingon a repris King Crimson avec Orchestre de Code. Voilà, il me dit de regarder sur YouTube.
On ira voir ça après l'émission.
Voilà, on ira voir ça. Merci Matteo de nous faire part de cette information. Et donc je le disais, voilà ce line-up qui tend vers le line-up actuel puisqu'on retrouve Robert Fripp, Tony Levin, voilà, Adrian Belew qui est le guitariste qu'on entend faire la guitare slide, tout ça là avec qui fait avec son bottleneck les notes là de Matteo Kudasai, qui a rejoint justement en faisant la connaissance de Robert Fripp King Crimson en 1980 et qui a reformé le groupe. C'est le ça reprend grâce à la rencontre entre Adrian Belew et Robert Fripp en 80. Donc line-up très important, voilà, celui-là, ce quatuor là, tout à fait remarquable, puisque en 1982 il y a l'album Beat qui sort et on a justement une piste très connue de King Crimson. C'est une qui ressort du lot aussi, elle est sortie en single et voilà, et cet album là est un des plus connus de King Crimson aussi, notamment par sa pochette aussi, comme tu le disais, qui a son identité, hein, avec la petite note sur le fond bleu comme ça. Franchement, bien trouvé tout ça, et cette période là voilà, qui est encore très ancré dans la mémoire de King Crimson, hein. Donc franchement, c'est une période très très reconnaissable. Et dans cet album-là, il y a beaucoup de références à inscrites dans le temps. Ça fait référence aux écrivains de ce qu'on appelait la Beat Generation. On retrouve dans la chanson Neil and Jack and Me, piste d'ouverture qui dure 4 minutes 22, au deuxième couplet, si je me trompe pas, il nous parle de Satori à Paris. Donc il nous dit des souterrains, tout ça. Il parle en français, hein, notre ami Adrian Belew là, de King Crimson. Je sais pas si t'avais entendu, Erendil. Il parle en français. On entend très très mal, mais il nous dit il nous parle de Satori à Paris. C'est un roman, figurez-vous, de Jack Kerouac, qui est américain, et c'est un roman autobiographique en fait. Il nous parle de son passé, familial, puisque ses racines viennent de France, donc il est allé à Paris et en Bretagne, et donc on sent l'influence vraiment de l'époque avec cette Beat Generation d'écrivains. Et on retrouve le nom d'album qui est cohérent, et même dans les paroles jusque là. Est-ce que tu te rends compte un petit peu comment c'est un King Crimson compose alors un groupe inscrit dans leur époque et eux-mêmes inscrivent le rock progressif, quoi. C'est quand même assez impressionnant.
Mais je pense que ça va s'entendre aussi, et que les auditeurs vont tout de suite voir dans quel créneau, on va dire, on est, dans quelle période on est vraiment.
Voilà, une période de la musique très reconnaissable. En 1982, nous avons la piste Heartbeat qui arrive tout de suite, qui dure 3 minutes 50 cartes. L'avant-dernière piste la plus courte de l'émission, voilà. Juste avant de clôturer avec le Power to Believe, qui est une piste très courte de 2 minutes 30. Voilà, c'est tout de suite Heartbeat de King Crimson sur If.
I need to feel your heartbeat.
voilà, c'était donc cette piste Heartbeat de King Crimson, bien sûr. R&D, tu es toujours avec moi ?
Toujours, bien sûr.
Bien sûr, et donc, eh bien, nous allons clôturer cette spéciale King Crimson avec 10 minutes de retard. Et nous en aurons bien sûr 2 minutes 50 plutôt, parce que nous terminons avec une piste de clôture de la carrière de King Crimson, en tout cas en album studio et en tout cas jusqu'à maintenant. Puisque avec cette 8ème reformation, on se demande s'il pourrait pas y avoir un autre album studio. Et bien oui, ça sera à voir pour l'avenir du groupe, mais avec cette 8 reformation et notamment avec ce bassiste là qu'on n'avait pas retrouvé, il me semble, en 2009, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est plus tout à fait le même line-up. Et il y a notamment plusieurs batteurs, ce qui intéresse beaucoup Robert Fripp, hein, leader du groupe. Et donc, une formation qu'il n'y a jamais eu auparavant. Donc, ça va peut-être les amener à avoir encore plus d'inspiration et peut-être sortir un nouvel album. Peut-être, pourquoi pas, courant 2014-2015, on ne sait pas. Voilà, R&D. C'est quelque chose d'énorme, très intéressant. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et donc, on termine avec cet album de 2003 qui termine pour nous en tant que la personne de 2013. On est 10 ans après cette sortie d'album et on se dit, voilà, à l'époque, on ne sait pas encore qu'il n'y aura pas d'autres albums studio comme ça. Et aujourd'hui encore, on ne sait pas s'il n'y aura pas d'autres albums studio. Pour l'instant, il est encore possible qu'il y ait d'autres albums. Et donc, on espère toujours, nous, au fond de notre cœur, n'est-ce pas, R&D, qu'il y aura un nouvel album de King Crimson pour nous surprendre encore une fois. Voilà, si c'est possible. Mais je suis sûr qu'ils y sont encore capables. Et en tout cas, les retrouver en
live. C'est un peu
à
l'image de cette émission. Finalement, on va dire qu'on a frôlé la... Je sais pas pourquoi j'ai une image d'une orange qu'on essaierait d'éplucher. Là, on a vraiment... égratigner un tout petit peu l'univers que peut être King Crimson, et je suis certain que quelqu'un comme Robert Fripp, c'est quelqu'un qui a encore des idées, qui est pas du tout blasé et qui pense pas avoir fait le tour de toute façon de son art. Donc
oui,
voilà, donc ça a fait à blanc, c'est ça ?
Non, pas du tout. Mais donc je te remercie en tout cas de m'avoir accompagné pendant cette superbe émission que j'ai énormément apprécié d'animer en ta compagnie.
Ah bah écoute, ça m'a fait très 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 plaisir aussi, et je savourais même que j'ai pas vu le temps passer en fait.
Ah oui, bien sûr, là c'était une heure et demie là même, parce qu'on a commencé à 21h45, voilà, c'était énorme. Donc il y a Dune qui vient de nous rejoindre, salut à toi.
Salut Dune.
Voilà, donc ça sera enregistré de toute façon, Dune, si tu voudras écouter, je te passerai le lien, et vous tous d'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pourrez me demander, je vous donnerai les coordonnées pour récupérer le podcast, voilà.
Alors j'ai même une autre annonce aussi, mais on a vu avec Tarus, on va faire une playlist spéciale sur YouTube,
voilà.
Donc sur la chaîne YouTube de Riff, on mettra une playlist avec une petite intro, on va faire les choses bien, et on remettra en intégralité tous les titres qui ont été diffusés ce soir, pour les plus curieux et ceux qui voudraient...
Écoutez. Nous avons quelqu'un qui a beaucoup d'humour, Julien sur Facebook, qui me dit là ça devient de la grande délinquance. En gros, il dit que le pauvre Azael derrière, il se fait complètement voler là, il se fait racketter son horaire, comme me dit Julien, quoi, carrément. Donc il a tout à fait raison. Alors ça a beau être King Crimson, notre gourou souverain, lui, ne peut pas attendre, et on l'a déjà gratté 14 minutes quand même. Donc R&D,
ah oui, c'est pas mal.
Voilà, c'est quand même beaucoup. On est des racketteurs d'audience comme ça. Donc tout de suite, nous clôturons officiellement cette émission sur, comme tu le disais un petit peu, on égratigne vite fait la carrière de King Crimson. On a fait très rapidement leur carrière et peut-être peut-on espérer dans une prochaine émission, alors on verra bien, mais comme on l'avait pensé, R&D, peut-être aller plus profondément encore, si vous êtes prêts à aller plus profondément dans King Crimson. Et voilà, mais on verra bien et on a encore le temps de réfléchir, voilà. Donc nous terminons avec la piste de on a commencé avec la première piste du premier album sorti en 69, et je vous ai dit que la carrière s'étendait en studio de 69 à 2003, puisqu'ils ont fait des lives bien sûr après. Mais voilà, en 2003, la dernière piste qui clôture leurs albums studio solo, c'est la piste de Power to Believe dans l'album du même nom. Voilà. La partie 4, encore avec cette histoire de thématique à répétition de partie, voilà, la partie 4 qui s'appelle The Power to Believe 4 Coda. Voilà, c'est donc le coda de l'album, et c'est tout de suite sur Riff. Je vous remercie à tous d'avoir assisté à cette émission, et on se retrouve dans une prochaine émission de la Dose Rock, j'espère. À la semaine prochaine, salut à tous, et
merci
à
tous.
Encore.
Bonne nuit, bonne soirée, merci à vous. Et à toi aussi, Thomas.
Merci beaucoup. Tout de suite, la piste très, très, très impressionnante, The Power to Believe, Coda. Nous clôturons officiellement cet épisode de King Crimson dans l'histoire de Riff. Salut à tous, à dimanche prochain. Merci encore Erendil et à la semaine prochaine. Salut tout le monde. Bonne nuit. Allez, salut à tous, à dimanche prochain. Merci encore Erendil et à la semaine prochaine. Salut tout le monde. Bonne nuit.